du Midrash. Donc encore avant le verset qui va parler de Rakia, on est toujours encore dans ces versets qui parlent du tout début, de la lumière, etc. Alors voilà, on a un texte ici. Je disais, je sais pas trop comment le prendre. On va quand même le lire en tout cas, même si c'est pas en dire grand chose. Amar Rav Yanaï. Mitrilat Briato Shel Olam. Dès le début de la création du monde, Tsafa Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a vu, il a observé, Maaseyen Shel Tzadikim ou Maaseyen Shel Rechaim. Les actions des Tzadikim et les actions des Rechaim. Bonjour Bernard. Ve'aretz, alors, et le Rav Yanaï, il appuie son dire ici, sur les psukim, il va lire les psukim de cette manière-là. Le pasuk qui dit va'aretz haïta tohu va'vohu, il dit que va'aretz haïta tohu elo ma'aseim shel reshaim. C'est-à-dire la terre était tohu, l'état de tohu de la terre, c'est en fait les actions des reshaim. Ce sont les actions des reshaim qui mettre la terre dans cet état de tohu. C'est-à-dire, tohu, vous vous souvenez, tohu, ça, Rashi explique que c'est quelqu'un qui est tohu, c'est un mot qui, en fait, fait référence à une errance. C'est-à-dire, on erre dans le sens des choses, au sens où on se dit, tiens, alors, je vais chercher un mot pour, par exemple, quand je veux décrire une couleur. Vous avez vous avez un arbre avec des feuilles. Vous voulez décrire, vous dites, ouais, c'est un verre, bon, c'est un verre bouteille, non, c'est un verre menthe, c'est un verre ceci. Donc, on erre, ça, on ne sait pas, on n'arrive pas à trouver. C'est-à-dire qu'en fait, Maaseim shel Rechaim, les actes des Rechaim pour Rav Yanaï, c'est ça qui est dit sous la forme, la terre était dans cet état de tohu, de on ne sait pas. Ça veut dire que, bon, là, il faudra comprendre pourquoi les actes des Rechaim, qui sont pourtant des actes, si vous voulez, qui sont clairement des actes de Rechaim. Les actes de Rechaim, ils sont vus comme des actes qui sont, c'est comme si, ben, on ne sait pas, on n'arrive pas à les caractériser. Donc c'est assez, on va revenir là-dessus. Ensuite, le verset suivant, Vayomer Elokim Yehi Or, quand Hashem dit qu'il y ait de la lumière, Elo Maasem Shel Tzadikim. La lumière, ce sont les actes des Tzadikim. Vayavdel Elokim Ben Aor ou Ben Achosher, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait la différence entre la lumière et les ténèbres, c'est qu'il a fait la lumière. Il a fait la différence, pardon, entre la lumière et les ténèbres, veut dire qu'il a fait la différence entre les actes des tzadikim et les actes des reshaim. Bon, là, on devra un peu s'arrêter sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, faire la différence entre les... Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Il faut faire la différence? C'est-à-dire, si Hachem ne la fait pas, cette différence, elle n'existe pas d'elle-même? On va revenir là-dessus, bien sûr. Vaikra Elohim Laor Yom. Kadosh Baruch Hu a dit, il a nommé la lumière, il l'a appelé Yom. Elomastem Shel Tzadikim. Velachosher Kara Laila. Les ténèbres, il les a appelées nuit, et le maaseyem shel reshaim. Vahi erev, ce fut soir, maaseyem shel reshaim. Vahi voker, matin, et le maaseyem shel tzadikim. Yom echad, donc le jour 1, shenatan lahem akadosh baruch hu, Yom HaKippourim, Yom Echad, Veze, Ze Yom HaKippourim. Le jour 1, un jour unique, c'est Kippour. Amar Rav Tanchum Bar Yirmeya, pourquoi? Shebo, parce que ce jour-là, Nivreu Arba Dvarim. Quatre choses ont été créées. Alors là, c'est un peu surprenant. Dans les quatre choses, il y a Harim, les montagnes, Shamaim Vaharetz, Veora. Donc les montagnes, les cieux et la terre, et la lumière. Donc là, c'est intéressant parce que il a l'air de considérer les montagnes comme n'étant pas la terre. Comme si c'était une autre chose, parce qu'il dit Haaretz. Donc les montagnes, c'est la terre. Non, lui considère que les montagnes, c'est autre chose que la terre. Amar Rav Yudan, Shebo Haya Akadosh Baruch Hu Yechidi, le jour est un jour un, unique, parce que ce jour, Akadosh Baruch Hu était unique, il était seul, Beolamo. Sheloya Beolamo Elaou, dans son monde il n'y avait que lui. Le Midrash dit, Atia Kirabi Yochanan, Velo Atia Kirabi Chanina. Cet enseignement-là, il va comme Rabbi Yochanan et pas comme Rabbi Chanina. C'est quoi leur machloket? Rabbi Yochanan Amar, parce que leur machloket, c'est quand est-ce que les anges ont été créés. Rabbi Yochanan Amar, Besheni Nivrao Malachim, les Malachim ont été créés le deuxième jour. D'où est-ce qu'il le sait? Atahu Dirtiv, parce que c'est marqué dans le Pasuk, c'est un Pasuk dans Tehilim, qui dit Amkare v'amayim aliyotav, asam avim ruchuvo, amalech al kanfe ruach, d'un côté, et c'est marqué Ose malachav ruchot. Et donc le même ruchot, c'est, on l'avait trouvé dans le précédent verset. Donc, voilà. On verra après, dans le détail, pourquoi ça s'appelle, c'est bien du deuxième jour. Et Rav Chanina Amar, Bechamishi. Rav Chanina dit, non, les anges ont été créés le cinquième jour. Nivraou. Malachim, et lui aussi, il s'appuie là sur un pasouk, mais lui s'appuie sur un pasouk, justement, dans le récit de la création. Ve'of yofef ala aretz, il y a un oiseau, enfin, volatile, qui volette sur au-dessus de la terre. Urtiv, ubishtaim yofef, il a deux ailes pour voler. Bon. Donc, comment ça fait le cinquième jour, on va voir. Rav Luliani Bar Tavri Beshem Rabbi Yitzchak Amar Ben al Da'ate de Rabbi Chanina Ben al Da'ate de Rabbi Yochanan, tant pour Rabbi Yochanan que pour Rabbi Chanina, à Kol Modim, tous les deux sont d'accord, Shelo Nivra Beyom Arishon Klum. Donc le premier jour, rien n'a été créé. Shelo Tamar ne vient pas nous raconter que Michael aya moteach bidromo shel Rakia, que l'ange Michael étendait le sud du Rakia, Gabriel bitzfono, Gabriel au nord, Akadosh Baruch Hu memaded beemtzaito, Akadosh Baruch Hu il tient l'édifice au milieu. Bon, ne me dis pas des choses pareilles. Ela Anochi Hashem Ose Kol. Hashem dit, je suis Hashem, c'est moi qui fais tout. Ose Kol. Notez Shamaim, j'étends les cieux levadi tout seul. Roka Aretz Meiti, et je fais Roka Aretz, c'est à la main, c'est-à-dire la terre est sur les eaux. C'est de moi. Mi iti ktiv. D'accord? C'est-à-dire, qui avec moi? Mi aya shutaf imi. Briato shel olam. Qui donc était mon associé quand j'ai créé la terre, le monde? Voilà. Voilà ce texte. Assez compliqué. Enfin. Alors le problème, c'est qu'est-ce que veut le Midrash? Alors, comme d'habitude, on va commencer par regarder ce que dit le Midrash à la fin. À la fin, Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, proteste ou il dit, mais j'étais tout seul au moment de la création. Personne ne m'a assisté. Il n'y a pas d'anges qui m'ont assisté au moment de la création. Et le premier jour, si on remonte, le premier jour, il n'y avait rien. C'est étonnant, le premier jour, il y avait. Quand on a dit Yom Echad, c'était après que on est dit qu'il y a eu, il y avait la lumière, en tout cas. Et il y avait la terre. Il y avait les cieux. Pourquoi est-ce que le Midrash dit qu'il n'y avait rien? C'est quoi ce rien-là? Rien, ça veut dire ici, il n'y avait même pas les anges. Ok, il n'y avait pas les anges, mais il y avait la terre. En plus, c'est marqué, le premier jour, quatre choses ont été créées. Mais ces choses-là sont des créations. Et quand Hachem dit « j'étais tout seul », ça veut dire « j'étais tout seul ». Rien n'avait été créé, au sens de des choses dont on pourrait penser qu'ils vont jouer un rôle. Parce que le problème, c'est si on dit que Hachem était tout seul parce qu'il était créateur et que tout le reste était des créations, des créatures, la création, ben c'est vrai, c'est pas vrai que du premier jour, c'est vrai de tous les jours de la création. Alors c'est quoi cette idée que s'il y avait eu des malachim, alors on aurait pu se tromper et penser que les malachim ont contribué à la création. Donc l'idée c'est que Kadosh Baruch Hu aurait créé, il s'agit pas de mettre en cause, en doute, le fait que c'est Hachem le créateur, mais on aurait pensé que Hachem a créé d'abord des malachim, et ensuite les malachim ont aidé, en fait. Hachem dit non, pas du tout, il n'en est rien, c'est pas vrai. Surtout, ne vous imaginez pas une chose pareille, même les grands malachim, Michael, Gabriel, non, ils n'y sont pour rien, ils n'ont pas du tout contribué à la création. Ce sont des créatures qui n'ont contribué en rien à la création. L'idée, c'est que par la suite, les malachim ont l'air d'être des relais de la volonté d'Hachem. Prenez par exemple la situation après le veau d'or, quand Hachem a finalement accepté le plaidoyer de Moshe Rabbeinu, il a décidé de pardonner au Bnei Israël. Mais qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il lui dit, je vais envoyer un malach, je vais envoyer un ange qui va diriger le clan d'Israël. C'est pas du tout que c'est pas Hachem qui dirige, mais en quelque sorte Hachem délègue. Et il y a un ange qui est préposé à diriger. On voit bien que par la suite, donc, cet ange qui est préposé à diriger, il apparaît comme un associé d'Hachem, bien sûr. Il n'y a pas de doute qu'il serait un créateur complet. Mais Hachem veut dire que la création elle-même s'est faite sans intermédiaire, en fait. La création, c'est à chaque fois Hachem lui-même qui crée les choses. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a proposé le malach pour diriger le clan d'Israël, Moshe Rabbeinu a dit, il n'en est pas question. Nous, nous voulons avoir une liaison directe avec Hachem. On ne veut pas d'un malach qui serait nommé par Hachem pour diriger le clan d'Israël. Et quand il dit ça parce que tous les peuples ont justement un malach ou un Elohim ou etc. qui justement sert de relais à la direction du monde par Hachem. Hachem gouverne le monde par l'intermédiaire d'un relais. Et quand on a envisagé, quand on parle de ce malach qui éventuellement dirigerait le clan d'Israël à la suite de la faute du veau d'or, ce que Moshe n'a pas accepté finalement, le malach c'est quelque chose, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le malach finalement? Pourquoi est-ce que c'est pas bien qu'il y ait un malach? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne veut pas de malach? Entre autres, parce que s'il y a un malach, le malach, il n'est pas atteignable par le rachamim, etc. Le malach, il fait qu'une seule chose. On va dire, c'est comme ça et c'est tout, il n'y a pas à discuter. Si vous voulez, il y a un côté figé dans le malach. Le malach, on voit très bien que par la suite, on va nous dire que les malachim ne font qu'une seule chose. Vous vous souvenez de l'année dernière, que quand les malachim arrivent chez Abraham Avinu, qui a les fameux ces arabes là qui sont faits des malachim, chacun vient avec une tâche bien précise. Il n'y en a pas un qui peut tout faire. Il y en a un qui vient pour annoncer à Sarah qu'elle aura l'année prochaine un enfant. Il y en a un qui vient pour guérir Abraham. Il y en a un qui vient pour détruire Sodome. Un malach, il fait qu'une seule chose. Donc quelque part, il y a cette idée de il manque de souplesse. On peut pas lui parler au malach. On peut pas intercéder. On peut pas, Moshe Rabbeinu, qui, justement parce qu'il parle directement à Hachem, il arrive à intercéder pour le clan d'Israël. Hachem a dit, je vais détruire le clan d'Israël, mais Moshe Rabbeinu a entendu que Hachem lui a dit, laisse-moi, je vais détruire. Donc Moshe Rabbeinu entend que quand Hachem dit laisse-moi, ça voudrait dire qu'il pourrait ne pas laisser. Et il dit, je pourrais ne pas laisser. Et du coup, il va empêcher qu'Hachem détruise le clan d'Israël à la suite du veau d'or. En quelque sorte, le fait même d'avoir affaire directement avec Hachem, ça donne une plasticité, si vous voulez, à la situation. Ça peut bouger. Avec un malach, les choses sont figées complètement. Et c'est exactement le contraire de toute la Torah, en quelque sorte. Toute la Torah sait justement cette loi, effectivement, mais il y a cette plasticité, en fait. Or, c'est ça la richesse, si vous voulez, de la Torah, et c'est la richesse du monde que d'être créé directement par Hachem. Si c'était créé avec des malachim, les malachim, ils auraient introduit quelque chose une rigidité dans le monde. Le fait que le monde trouve dans ce qu'on appelle la nature ou dans les lois, trouve des solutions, quelque part, s'adapte. On parle beaucoup, ces derniers temps, on parle beaucoup de, on parle beaucoup de la plasticité du cerveau, etc. Donc, ça, c'est spécifique de la relation que le clan Israël veut avoir avec le monde. Et pour avoir une telle relation avec le monde, c'est avoir une telle relation avec Hachem. Et ça, avec un malheur, c'est pas possible. Et donc, ce qu'Hachem dit ici, personne n'était là, personne ne m'a aidé, donc personne n'a introduit dans, enfin, c'est comme ça que je comprends, hein, personne n'a introduit de rigidité dans le monde. Maintenant, il y a les malachim. Là, à la fin, là, la deuxième partie du Midrash parle des malachim. La première partie du Midrash, elle parle des hommes. Elle parle des hommes et elle dit que les hommes sont partagés en deux camps. Il y a les tzadikim et il y a les roshaim. Tzadikim, les justes, et les roshaim, les mécréants, les mauvais. Et Rav Yanaï, ici, il dit que depuis le début de la création, Akadosh Baruch Hu a vu, il a observé Ma'asem shel tzadikim ou Ma'asem shel roshaim. C'est-à-dire que quand la Torah nous dit la terre elle était comme ci ou comme ça, elle ne nous parle pas de la terre. Elle nous parle des actions des hommes. Et si la terre est dans un certain état, ce sont les hommes qui la mettent dans cet état. Donc, si la terre est dans cet état de tohu, il n'y a pas, c'est pas que la terre était par elle-même, dit Rav Yanaï, dans cet état-là. Elle n'est dans cet état-là que par l'action des hommes. Les Rechaim mettent la terre dans un état de tohu. C'est comme si la terre était tout à coup dans un état, on pourrait dire instable. Il y a une instabilité parce que les actes des Rechaim rendent la terre instable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire que les actes des Rechaim ne sont pas en harmonie avec le monde. Donc, si vous voulez, c'est ça qui met la terre en instabilité. Parce que la terre était, normalement, elle est le support du monde, le support, elle est ce lieu des hommes. Les hommes doivent être, ils sont sur terre. Et leur conduite ici met la terre en état d'instabilité, c'est-à-dire que elle n'est pas dans la situation dans laquelle elle devrait être. Les Rechaim, c'est ça, c'est des éléments, disons, qui sont déstabilisants. C'est ça les Ma'asim des Tzadikim, des Rechaim, pardon. Aretz ha'ata tohu ma'asim shel Rechaim. Aretz, dans le, Aretz, c'est plutôt lié à la matière, en opposition à Shamaïm. Et donc ici, on a cette idée que, justement, cette Aretz, elle a à voir avec les actes des Rechaïm. Les actes des Rechaïm, sont des actes qui mettent... Le rachat, c'est celui qui, alors que l'être humain, il peut... vous savez bien, l'être humain, il a son nom de Adam. C'est Adam et Adama. C'est-à-dire qu'on peut le rattacher à la terre. Mais aussi Adam et l'Aïlion. C'est aussi... Je vais ressembler au Très-Haut, à ce qui est en haut. Et justement, les Réchaïm, eux, ils décident de choisir la terre, pas le haut, en quelque sorte. Il y a un Chazal qui dit la chose suivante. Chazal qui dit que Akadosh Baruch Hu s'interroge. C'est nous qui nous interrogeons au sujet d'Hachem. Est-ce qu'Hachem préfère les actes des tzadikim ou les actes des rechaïm? C'est une drôle de question, n'est-ce pas? Est-ce qu'Hachem préfère les actes des tzadikim ou ceux des rechaïm? Comment on peut poser une question pareille? Alors, on peut l'entendre de la manière suivante. De toute manière, la volonté d'Hachem, elle va se faire. Ça sera fait. Les tzadikim, ils font la volonté d'Hachem, donc la volonté d'Hachem est faite. Les Rechaïm, ils font pas la volonté d'Hachem. Oui, c'est juste. Mais il arrivera un moment où ils vont être sanctionnés. Et on verra donc que la volonté d'Hachem va se faire. Hachem va réparer, enfin, il va les obliger à aller dans l'autre sens. C'est ça la sanction des Rechaïm. Donc, finalement, on pourrait dire, pour Hachem, je sais pas ce qu'Hachem préfère. Est-ce qu'Hachem préfère la voie où les gens lui obéissent? Ou est-ce qu'il préfère la voie où sa puissance, où sa toute-puissance se manifeste? Peut-être qu'il préfère cette voie-là. C'est pas que les Rechaïm font quelque chose qu'Hachem préfère, qui resterait effectivement quelque chose que Hachem préférerait dans l'état dont les Rechaïm le font. Mais quand je regarde l'image dans sa totalité, je vois bien que les Rechaïm vont être sanctionnés. Et donc la volonté d'Hachem, ultimement, elle va bien se faire. Et ce faisant, on peut dire, bon, du coup, on peut se demander, qu'est-ce qu'Hachem préfère? Et la réponse, c'est quand Hachem dit Yehi Or, ça c'est les Maasim des Tzadikim, comme on voit ici. Donc je vois qu'Hachem choisit plutôt les Maasim des Tzadikim. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est ce que je vous ai dit, les Maasim des Rechaïm, au moment où les Rechaïm font leur Maasim, ça déséquilibre. L'équilibre va être rétabli, Hachem va remettre les choses en place. Et les Rechaïm vont souffrir, ils vont être punis, quelle que soit la façon dont on présente les choses. Et donc finalement, ultimement, les choses arriveront bien là où elles doivent arriver, là où Hachem veut qu'elles arrivent. Mais en attendant, justement, Aretz Haïta Tohu. Elle était dans un état de Tohu, ensuite elle va en sortir. Comment elle en sort? Elle en sort grâce à la lumière. La lumière, ça c'est les Maasim des Tzadikim. Yehi Or, Elu Maasim chez Tzadikim. Alors le Or, justement, cette lumière, c'est quelque chose d'abstrait, si on peut parler comme ça. Cette lumière, c'est une lumière qui amène, qui permet de voir tout ce qui se passe dans le monde, etc. C'est la fameuse lumière initiale, bon, qui permettait de voir Misof Haolam Atsofo, d'un bout à l'autre du monde. Tout était transparent pour cette lumière-là. Et ça, c'est les maasim des tzadikim qui sont parfaites. Les vrais tzadikim sont parfaites. Il n'y a pas de scorie, il n'y a rien. C'est ça là, on peut appeler ça lumière. Alors, comme vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si on suit Rabbi Yanaï, le monde, on parle d'abord de Haaretz Hayta Tohu, c'est avant Vayi Or. C'est-à-dire, il est maasim de Rechaim avant les maasim de Tzadikim. Mais toujours cette idée que, est-ce que, effectivement, les maasim des Tzadikim ne peuvent être appréciés comme tels que comparé au maasim des Rechaim? La lumière, elle était, c'était une lumière qui était, qui faisait du bien, si vous voulez. Et ce bien-là, bon, on le sait, c'est, on ne peut pas l'apprécier si on ne peut pas le, justement, s'il n'y a pas le contre-exemple, enfin, s'il n'y a pas le contraire. Et donc, il faut d'abord, effectivement, le matzav des, la situation des maasim shel rechaim, pour qu'arrivent les maasim des tzadikim. Mais si on veut regarder un peu plus loin, en fait, oui.
J'ai une question par rapport à ce que vous dites, s'il vous plaît. Comment se fait-il que il puisse séparer l'or et la lumière et des ténèbres, donc les tzadikim des rechaim, enfin les maasim, puisque si c'est déjà nommé comme tel, c'est déjà séparé. Comment on peut séparer quelque chose qui est déjà différent? Comment on peut, puisque ça se termine en disant il sépara les œuvres des justes de celles des scélérats, mais s'il y a des œuvres des justes, c'est que déjà c'est différent des scélérats, donc comment les séparer?
D'accord, on y viendra, oui, je vais en parler. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si Haaretz Hayta Tohu, c'est avant, mais vous vous souvenez, on a appris que le monde a été créé avec 10 ma'amarim, avec 10 paroles. Mais la première parole qui est introduite la chose qui est créée par une parole, c'est le fameux Yehi Or. Mais la Gemara va expliquer que si on regarde ça, on en trouve que 9. Et ensuite, Chazal vont dire, le Midrash va dire, que Bereshit, c'est aussi un Mahamar. C'est-à-dire que Bereshit, c'est aussi une parole, disons comme ça. Bien que ce ne soit pas présenté du tout comme une parole. Et justement, ce qui est important, c'est que, d'après cela, les Maasim des Rechaim, d'accord, ils ne résultent pas d'une parole au sens habituel du terme. Puisque eux sont la suite du Bereshit. Il y avait Réchid Bara, Shamaim Baharetz, Baharetz après Yehior. Donc, les maasim des tzadikim sont des maasim qui résultent d'une parole au standard, d'une parole Vayomer ou Hashem a dit. Les maasim des Rechaim, a priori, ça n'est pas une parole, mais après, Chazal dit, non, en vérité, c'est aussi une parole. mais c'est une parole qui ne se présente pas du tout comme parole. Parce que, semble-t-il, le mal, ce mal qui est nécessaire pour qu'on puisse apprécier le bien, si vous voulez, bien sûr que le mal est créé par Hachem. Mais c'est pas une création au même titre que le bien. C'est aussi une création, le bien. Mais c'est pas au même titre. Donc c'est pour ça que le pasouk qui correspond au Maasim de Rechaim, c'est un pasouk qui n'a pas de Vayomer, mais dont on nous dit que c'est un Mahamar, quand même. Et c'est ça, je pense que ça veut dire, c'est que c'est pas que Hachem a dit quelque chose, il dit quelque chose dont on va dire que c'est les Maasim de Rechaim. Mais que les Maasim de Rechaim, ça a l'air d'être quelque chose qui est là donné presque dès le départ, un peu comme ce que Hachem a dit dans la Parchat Noir, Yetzer, je vais plus envoyer de déluge parce que l'être humain, son Yetzer, il est là depuis le début. Il est d'origine, en fait. Ici aussi, on a l'impression que les Maasim de Rechaim, ils sont d'origine. Et que les Maasim de Tzadikim, c'est une construction. C'est la résultante d'une parole divine, explicite. Parce qu'effectivement, les Maasim des Tzadikim ont à voir avec la parole. Dans la mesure où, très souvent, on dit, mais il y a des gens qui ne suivent pas la Torah, mais qui ont d'excellentes midot, qui se conduisent très bien, qui sont généreux, qui sont bons, etc. Oui, c'est vrai, bien sûr que ça existe. Mais c'est pas ça, les Maasim des Tzadikim. Les Maasim des Tzadikim, c'est des Maasim qui sont comme celles-là, mais qui sont la résultante de l'ordre divin, en quelque sorte. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est une construction. Bon, souvent, c'est un peu un leitmotiv, souvent je vous ai dit qu'en fait, entre l'inné et l'acquis, il n'y a que l'acquis qui est une valeur. Parce qu'on a travaillé pour l'avoir. L'inné, c'est pas une valeur. C'est très bien, mais c'est pas la résultante d'un travail. Et l'homme, il est là pour travailler. Et ce qui est important, c'est la résultante du travail de l'homme. C'est pourquoi ici, les Maasim shel Tzadikim, ça ne peut être que la résultante d'une parole. C'est une parole, Yehi Or. C'est même pas la résultante. C'est Yehi Or. C'est la parole elle-même. Alors, quand on parle ici de ensuite, Vayavdel Elokim, Ben Haor, Ben Hachoshech, Akadosh Baruch Hu, il a fait la Avdala, il a séparé la lumière du Hachosher des ténèbres. Et les Chachamim m'expliquent que avant qu'Hachem les sépare, ils étaient Meshamesh Beirbuvia. C'est-à-dire que la lumière et les ténèbres fonctionnaient en même temps. Il y avait de la ténèbre et de la lumière en même temps. Comme une espèce de fog, une espèce de brouillard. Et là, vous avez à la fois l'un et l'autre. Et du coup, les Maasim, les Tzadikim, qui sont comparés à la lumière, et celles des Rechaim qui sont appelées, qui sont comparées au Chosher. Et pas dans le texte, il n'est pas non plus, le Chosher, c'est aussi une espèce de résultante, en quelque sorte. C'est un état. Mais il n'y a pas de parole. Hachem ne dit pas Yehi Choshech. Et donc, les Maasim des Tzadikim, c'est les Maasim des Tzadikim, mais en même temps, elle s'avoisine avec des Maasim de Rechaim aussi. C'est une situation dans laquelle c'est difficile, les choses existent en même temps. Est-ce que ça veut dire ici que si on prend l'être humain, il est à la fois capable de maasim de tzadikim, de maasim de rechaim, dans la même personne. Nous ne sommes pas tout d'un seul tenant. Nous, on est mélangés. Et donc, les choses, c'est vraiment des maasim de tzadikim. Mais en même temps, c'est des maasim de rechaim. Quelqu'un peut très bien être capable de faire une super mitzvah, et ensuite, en même temps, il fait une avéra. En même temps. La Gemara, elle envisage ces situations, on appelle ça, par exemple, mitzvah baba vera. Une mitzvah que tu fais en faisant en même temps une avéra. C'est-à-dire, pour arriver à la mitzvah, tu passes par une avéra. Donc après, la question se pose, est-ce que c'est une mitzvah là? C'est une mitzvah à baba vera. On ne dit pas que c'est pas une mitzvah, mais c'est pas validé comme mitzvah. On peut pas, ça marche pas. On peut pas reconnaître ça comme mitzvah. Mais extérieurement, ça a l'air complètement d'un maasé mitzvah. Et donc, la Kadosh Baruch Hu a fabriqué une situation où il a fait la Havdala entre les Maasim des Tzadikim et celles des Maasim des Rechaim. C'est-à-dire, il a fait en sorte qu'il puisse y avoir des Maasim de Tzadikim qui soient complètement maasim chez tzadikim, qui ne voisine pas avec les maasim de Rechaim. C'est pas des maasim de tzadikim et de rechaim, mais des fois, cette ambiguïté, si vous regardez bien les situations de chez Yaakov Avinu, c'est sûr que c'est un tzadik. Mais il y a des situations où on a l'impression que ce que Yaakov Avinu, c'est marqué Titen Emet de Yaakov. Yaakov, c'est le Emet. Et pourtant, on voit toutes sortes de situations où Yaakov a l'air de mentir. Alors, il va falloir comprendre pourquoi, comment expliquer qu'il mente, enfin, qu'il fasse quelque chose qui apparaisse comme un mensonge. Bon, à commencer par les brachot. Bon, il a dit à son père qu'il était Esav. Anochi Esav Bechorecha. Alors, on peut mettre la ponctuation, etc. Mais c'est sûr que si on vous disait ça, vous diriez, mais t'es en train de me raconter des mensonges. Même si on peut mettre de la ponctuation à Anochi, virgule, Esav Bechorecha, je suis qui je suis, et Esav c'est ton Bechor. Son père, il lui a demandé qui il était. Il ne lui a pas demandé de raconter l'histoire. Donc, il y a des situations, effectivement, où les choses sont ambiguës. Nous, on doit travailler pour voir que c'est ça le Emet. Hachem, il a séparé, effectivement, le Emet du Kosher, enfin, le Emet, le, les maasim des tzadikim, les maasim des rechaim. Cette lumière, qui est la lumière des maasim des tzadikim, c'est quelque chose de très abstrait. C'est la lumière au sens presque physique, quoi, avec son ambiguïté, etc., qui est à la fois une onde et un corpuscule. Sur le pasouk d'après, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a Vaikra Elohim, Laor Yom, Elo, Maasem Shel Tzadikim. La Choshech, il l'a appelé Laila, Elo, Maasem Shel Rechaim. C'est quoi la différence entre Or et Yom? Le pasouk dit, Akadosh Baruch Hu, qu'il y avait de la lumière qu'il a créée, il a dit Yei Or, Yei Or, et maintenant ce Or, il l'appelle Yom. Vaikra, il le nomme, donc il lui donne une tâche. Tu vas être jour. Il est clair que le jour, c'est quelque chose qu'on perçoit directement. La lumière, surtout si c'était une lumière spirituelle, on ne la perçoit pas vraiment. Peut-être, elle n'est pas visible avec nos yeux, peut-être. Elle est trop puissante, si on peut parler comme ça. Alors que Yom, c'est clair comme le jour, comme on dit. On ne dit pas, c'est clair comme la lumière. C'est-à-dire l'expérience qu'on vit quand on est en plein jour, c'est autre chose que simplement de parler de la lumière. Donc les maasim des tzadikim, si on dit comme ça, les maasim des tzadikim, finalement, ont évolué. Ils étaient comparables à la lumière, et maintenant les maasim des tzadikim deviennent comparables au jour. C'est-à-dire les maasim des tzadikim, il y a un niveau où ces maasim des tzadikim ne sont peut-être pas. C'est la lumière absolue, si on veut. Dans l'absolu, c'est parfait, mais c'est pas perceptible. La lumière toute seule, on peut pas la voir. On la perçoit seulement par comparaison. Alors que Yom, c'est une entité, si vous voulez. Et donc ici, vous voulez dire que les maasim des tzadikim ont évolué, ces maasim sont maintenant visibles et reconnaissables comme maasim des tzadikim. Peut-être que si on prend cet exemple, qui est peut-être pas un bon exemple, mais exact, mais ce que je vous ai dit sur Yaakov Avinu, il y a des situations où c'est un maasé de tzadik, c'est un tzadik qui agit, mais nous on a un peu de mal à voir en quoi c'est vraiment de la lumière, ça. En quoi c'est vraiment maasim shel tzadikim. Par la suite, il va avoir des actions qui sont clairement des actions où on comprend tout de suite, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ensuite, on dit vaillé erev. D'accord? Ça veut dire que même le soir, c'est pas encore la nuit. Mais le soir, c'est déjà maasim shel rechaim. Il faut déjà être capable de voir dans quelque chose qui n'est pas encore clairement un maasé racha. Comprendre que c'est déjà un maasé racha. Ça veut dire que être capable de discerner dans quelque chose qui est une espèce de maasé racha qui est dans l'œuf encore, de le voir déjà comme tel, être capable de le discerner voir. C'est seulement le soir. Ça penche vers le soir. Et c'est le nouveau Erev. Erev, c'est mélange. Donc c'est déjà encore le soir. On est en train de passer du jour à la nuit. Donc il y a déjà. C'est un massé ambigu. Être capable de dire c'est déjà. C'est un massé rachat. Et ça, il faut être très fort pour le voir. Et Boker, c'est aussi ça, émerge de la nuit. Et ensuite, Yom Echad. Non, le problème de Yom Echad, on le verra dans le paragraphe suivant, mais normalement, on aurait dû dire, si on dit Yom Echad, alors on aurait dû dire jour 1, jour 2, jour 3, etc. Ou bien alors, on devrait dire premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais dire jour 1, puis ensuite, deuxième jour, troisième jour, il y a un problème. C'est-à-dire que ce jour-là, il est unique. Ce premier jour-là, il est totalement unique. Il n'est pas vraiment un jour qui annonce d'autres jours, si vous voulez. Si on dit premier, ça on peut le dire seulement que par rapport à d'autres jours qui viendraient après, comme si on savait déjà au premier jour qu'il y aura d'autres jours derrière. Jour 1, il est 1. Il y a une unité complète. Ce jour 1, qui est donc le jour de Kippour, on dit que, effectivement, si on prend une année ordinaire avec un nombre impair de jours, il y a un jour qui n'a pas de pair. Il ne fait pas la paire avec un autre. Kippour, il est tout seul. Il est 365e jour. Tous les autres, ils vont par deux. Lui, il est tout seul. Il est unique. Alors, en quoi est-ce qu'il est Yom Echad? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? On dit que c'est Yom Kippourim. Ok. Yom Kippour, on comprend bien, hein. Yom Kippour, c'est un jour tout à fait spécial, puisque c'est un jour où, à la limite, on se comporte un petit peu comme des malachim, mais c'est un jour de kapara, etc. C'est un jour tout à fait spécial. C'est le jour où nous, on a reçu les luchot, les deuxièmes luchot, c'est-à-dire celles d'après lesquels nous vivons. Et deuxième luchot. Mais ensuite, le Midrash dit, Rav Tanchum, il dit, Shebo Nivraou Arba Dvarim. Il y a quatre choses qui ont été créées à ce jour-là. Comme si, ce jour-là, les choses essentielles, disent certains commentateurs, ont été créées. Dvarim shem ikar haolam sont l'essentiel du monde. Avec, effectivement, cette singularité, c'est-à-dire que les harim, les montagnes, sont considérés comme autre chose que Eretz. D'accord? Dans les quatre choses, il y a les montagnes, le ciel, la terre et la lumière. La terre et le ciel et la lumière, on comprend que ce soit essentiel. Et en quoi est-ce que les montagnes sont essentielles? Et si la terre était plate, je veux dire, sans montagne, il y aurait un problème. si elle pouvait créer un monde avec une terre sans montagne. Alors, certains Farshim disent que l'Atid Lavo, il y aura une Aresa Chadasha, Shamaim Chadashim, et il y aura donc une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et la lumière qu'on aura, c'est la lumière qui est Gnouza, cette lumière que Akadosh Baruch Hu a mise de côté au bout de 36 heures pour pas que les Rechaim puissent en profiter. C'est une lumière trop parfaite, si vous voulez. Donc celle-là, on la retrouvera. Non, ce que font les montagnes là-dedans, je ne sais pas. Bon, alors je sais pas. Ça, je sais pas répondre à la question. Je sais pas ce que font les harim. La seule chose que à laquelle je pourrais penser, mais bon, c'est un peu lointain, c'est il y a un télim de David Amelech qui dit: je lève les yeux El He Harim. Laisse mes yeux vers les montagnes. Et la dracha sur ce verset, c'est de dire: je lève les yeux vers les horim, vers les parents, c'est-à-dire les patriarches et les matriarches. Alors, peut-être que les harim ici, c'est la notion de patriarche et matriarche. Ce qui est possible, le clan d'Israël. On peut dire c'est le noyau du clan d'Israël. Mais bon, c'est un peu lointain. Et ici, le Midrash dit, voilà, maintenant, pourquoi est-ce que il est unique ce jour? Justement parce qu'il a, c'est un jour dans lequel les choses fondamentales ont été créées. Alors, bon, on peut dire qu'effectivement, il était fondamental que bon, le ciel, la terre et la lumière, et puis dans l'humanité, la notion de patriarche et matriarche qui vont donner naissance au clan d'Israël. Bon, ça c'est possible. Amar Rav Yehuda, Shebo haya Kadosh Baruch Hu Yechidi Beolamo. Ce jour-là, Hashem était seul dans son monde. C'est-à-dire, Shelo haya Beolamo Elahu. Dans son monde, il n'y avait que lui. Et ça, on dit que ça va comme Rabbi Yochanan et pas comme Rabbi Hanina, parce que Rabbi Yochanan, il dit, les malachim, ils ont été créés le deuxième jour, et donc le premier, il n'était pas créé. Il n'y a pas une preuve. Donc, de dire qu'ils ne sont créés qu'au deuxième jour, c'est important. S'ils sont créés le cinquième jour, c'est pas aussi parlant. Bon, c'est le cinquième jour, c'est dans le processus. Les malachim ont été créés comme d'autres choses. Mais si tu dis qu'il a été créé le deuxième jour, on met l'accent sur le deuxième et pas sur le premier. C'est ça la chita de Rabbi Yochanan. Et ensuite, il y a celui qui sera Luliani, qui dit que ce soit pour Rabbi Yochanan ou pour Rabbi Hanina, ils sont tous d'accord, en tout cas, que le premier jour, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune créature. On a déjà parlé des malachim. Voilà, si vous voulez, je pensais dire sur ce